C'est Bezrat Hashem, la lettre 15. La lettre 15. Et donc, c'est une lettre très intéressante, cette lettre, page 241. C'est une lettre qui est considérée comme une introduction, en fait, à la Chassidut. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, cette lettre, on aurait dû peut-être la faire plus tôt. Et c'est une lettre qui a un rapport particulier avec les Sphirot, et donc avec le Homer. Puisque vous savez que dans le Homer, quand on compte le Homer, tous les jours, par exemple, on a, je vais prendre le décompte, quelle page c'est dans le Patarilé ou le Homer ? Je sais pas. Bon.
Ça va être après Arvit.
Alors, en tout cas, donc, dans le. Après Arvit ?
Peut-être, je sais pas, dans mon Tridou.
Ok, bon, je prends dans le mien. Alors, quand on compte le Homer, d'accord, tous les jours, vous remarquerez qu'en dessous du décompte du Homer, ouais, il y a toujours une Sphira. Alors, des fois, c'est écrit Gvoura chez Bechesset, Reset chez Bigvoura, Tiferet chez Betiferet. Enfin, chaque jour, c'est une autre sphère. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer de Bezrat Hashem dans ce cours. Je pense que ça va nous prendre au moins 4 à 5 semaines pour bien comprendre, bien couvrir ce sujet. Et donc, bon, ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai choisi ce cours maintenant, puisque on est dans la période du Homer. Ça veut dire que quand on nous dit qu'on comptait 49 jours du Homer, c'est pas par hasard. C'est pas juste on comptait et c'est tout. Alors, chaque jour du Homer va correspondre à une approche et une avancée personnelle de chacun. Vous trouvez ? Voilà. Vous avez ici page 352. On a ici, par exemple, voilà, Yom Echad chez la Homer. Le premier jour du Homer, c'est Chesed chez Bechesed. Chaque jour, on a en dessous une ligne. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette ligne ? À quoi ça sert ? Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on compte le Homer. Pourquoi on compte le Homer ? Vous en prenez en compte l'Homer. Quoi ça sert ?
C'est une mitzvah de la Torah ?
Alors, il y a plusieurs raisons. On va Bezrat Hashem, au cours des semaines, on va les développer. Première raison, c'est que, la raison profonde, c'est que on dit que les Bnei Israël, lorsque Kadosh Baruch Hu leur a annoncé, Moshe Rabbeinu leur a dit, il leur a dit, vous allez recevoir la Torah quand ils sont sortis d'Égypte. Les Bnei Israël, ils savaient que ça allait prendre du temps. Ils savaient que ça allait prendre du temps. Alors, ils savaient que ça allait prendre du temps, et Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous allez vous préparer. Et il leur a dit, voilà, vous devez vous préparer. Et il leur a expliqué, selon le Ran, il leur a dit, voilà, il y a 7 sphirot, il y a 7 traits de caractère. Et on va expliquer comment les 7 traits de caractère, chacun des 7 est composé lui aussi de 7. Donc 7 fois 7, ça fait 49. Et il leur a expliqué, il leur a dit, vous allez vous travailler sur ça, et quand vous travaillerez sur ça, automatiquement, une fois qu'on aura fini le compte, automatiquement, on va recevoir la Torah. On va expliquer, donner des exemples. En fait, ce qu'on va expliquer, c'est que chaque fois, sur chaque élément qu'on va expliquer, on devra en même temps éradiquer la mauvaise mida et en même temps prendre une bonne mida. Je vais donner un exemple. Vous avez ici la mida du premier jour. C'est chesed chez bechesed, la bonté dans la bonté. Ça veut dire être la bonté dans la bonté. C'est-à-dire quoi la bonté dans la bonté ? On peut avoir la rigueur dans la bonté. C'est quoi la rigueur dans la bonté ? Être bon, ça veut dire vouloir le bien de quelqu'un. Mais vouloir le bien de quelqu'un, ça ne veut pas dire pour autant que je vais le caresser. Je peux peut-être le réprimander, si je veux son bien. Quand je dis que je lui donne le bien dans le bien, ça veut dire que je veux son bien et je lui montre du bien. Très bien. Seulement, chesed chez bechesed, on peut le trouver dans le bien, mais on peut le trouver dans le mal aussi. Tu vois, une personne qui aime le mal, qui aime quelque chose de pas bien, et qui va être à fond dedans. Tu comprends ? Donc, quel est le travail du premier jour ? Chaque jour du Homer, on devait repousser la mauvaise mida, on devait se travailler sur un trait de caractère spécifique. Par exemple, le premier jour, on devait se travailler sur l'amour qu'on a envers le mal. Donc, on devait éradiquer l'amour qu'on a envers le mal et le remplacer par un amour vers le bien. Et on expliquera comment chaque jour, il y avait un trait de caractère spécifique. Trait de caractère spécifique sur lequel on devait se travailler. D'accord. Maintenant, le Ran, Rabbeinu ici, il dit la chose suivante. Il dit, nous, comment on compte le Homer ? On compte le Homer, on compte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49. Il te dit, non, le Bnei Israël, quand il était dans le désert, il comptait à l'envers. Il comptait 49, 48, 47, parce qu'il savait que dès qu'ils allaient arriver à la fin, ça allait être, ça y est, le grand jour, le jour J. Alors, comme quand on était à l'école, quand on comptait les jours pour les grandes vacances, d'accord ? Alors, tu comptes moins 1, donc tu comptes moins 10, moins 9, moins 8. D'accord. Les Bnei Israël, ils comptaient comme ça. Pourquoi? Parce que chaque jour, en vérité, quand ils ont commencé, ils étaient, excusez-moi du terme, complètement pourris. Ils n'avaient que deux mitzvot. Ils avaient la mitzvot de la Brit Mila et la mitzvot du Carbon Pessah. À part ça, tout le reste, ils n'avaient rien. Donc il fallait tout refaire. Il fallait tout refaire. On ne parle même pas des mitzvot encore. Avant même de donner les mitzvot, il faut préparer la base pour recevoir les mitzvot. C'est quoi la base? Ben, la base, c'est d'avoir des bons traits de caractère. Avoir des traits de caractère sains. D'accord? S-A-I-N. Donc il fallait travailler sur ça. C'est ce qu'on a fait pendant la période du Homer. Et nous, en souvenir de ça, c'est pour ça qu'on va compter le Homer. À part ça, comme on a dit, bien sûr, là, c'est une mitzvot de la Torah. À l'époque du Beit HaMikdash, on devait chaque jour offrir une offrande, etc. Et jusqu'entre Pessah et Shavuot. Bon. Le sens profond. C'est pour ça que le mitzvot du Homer, elle est restée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le Beit HaMikdash. On prend fait le Homer. D'accord ? C'est quoi la mitzvah ? Tu dis à Cher qui dit Chanou, Mitzvotav et Tsivanou, Dieu nous a donné, il n'y a rien, il n'y a pas le Beit HaMikdash. À l'époque, le Homer, c'était une offrande qu'on offrait. Mais là, il n'y a pas, il n'y a plus cette offrande. Donc c'est pour ça qu'on explique. On dit qu'en fait, d'accord ? Dans le Homer, mis à part ce qui se passait au Beit HaMikdash, d'accord ? On a à part ça un sens profond. Le sens profond, c'est les sphirotes. Pour comprendre les sphirotes, alors ça, c'est un cours que Béhémet, quand on avait fait la première partie du Tania, chaque fois qu'on parlait des sphirotes, je vous disais à chaque fois, quand on ira plus tard, on comprendra, il y aura un cours que sur ça. C'est maintenant le cours. Maintenant. Et ceux qui ne sont pas là, ils perdent. D'accord ? Voilà, bon, j'ai enregistré parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'il n'allait pas être là, 2-3, mais les autres, ils perdent. Donc il dit comme ça. On va essayer d'expliquer maintenant dans le cours d'aujourd'hui. Donc ça va nous prendre, je pense, entre 4 et 5 cours. On va expliquer la base des sphirotes. Qu'est-ce que c'est les sphirotes ? Et on va expliquer pourquoi c'est important de le comprendre. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, écoute, tu me dis les sphirotes, c'est comment ça se passe en haut, et est-ce qu'il y a chesed, et que vous rentrez, tiferet. Je dis, écoute, Dieu, je lui fais confiance. Je suis sûr qu'en haut, il débrouille. Je veux dire, bon, ça va pas me changer grand-chose. C'est comme si, je vais te dire maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe au palais, comment Sarkozy, il gère, comment Sarkozy, il gère son bureau. Je dis, écoute, il débrouille, tant que ça tourne, je veux pas aller savoir combien de secrétaires il a, et comment ça tourne, c'est pas mes affaires. Donc pourquoi on veut tellement savoir? Pourquoi c'est tellement important pour nous de savoir les sphirotes, les chesed, les gvura, les tiferet? En fait, le chidouche qu'il va expliquer, c'est un grand chidouche qu'il va expliquer dans ce perek, c'est que quand on apprend ça, on apprend à se connaître. Ça, on va devoir l'expliquer. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on veut savoir ce qui se passe en haut, comme ça, bêtement, pour savoir ce qui se passe en haut. C'est qu'en vérité, il y a une structure dans le monde commune, et quand on comprend ce qui se passe en haut, automatiquement, on comprend ce qui se passe chez nous. Alors, c'est intéressant le conseil qu'il va expliquer. Il va dire que très souvent, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose sur soi, on va nous le montrer sur quelqu'un d'autre. Vous savez, ils font souvent ça dans les... Quand vous avez des fois des rabbins, il n'y a pas que ça chez les rabbins, même chez les psychologues. Quand ils ont envie de vous expliquer quelque chose, soit une réprimande sur quelque chose, mais ils savent que s'ils vont vous le dire directement, vous allez mal le prendre. Parce que quand tu vises quelqu'un, tu lui dis « tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça », il y a tout de suite l'amour propre qui vient, qui va cacher. Alors, c'est quoi la technique? La technique, c'est d'exporter le problème. D'accord, c'est même une technique dans le business. Hein. D'accord, c'est quand t'as une critique à faire, bon, bien sûr, des fois, il faut aller faire directement, mais quand tu sais que ça passera pas, tu exportes le problème. Ça veut dire que tu essayes de montrer ça dans un autre endroit, ailleurs. D'accord? Et automatiquement, la personne, quand il voit ça, il dit, mais attends, peut-être que moi aussi. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est pour ça qu'on va expliquer maintenant les sphirotes. On va les expliquer tel que ça se passe en haut. Et après, on va essayer comment, en vérité, cette même structure, on va la retrouver chez nous. Et Bezrat Hashem, on suivra donc le développement au cours du Homer. Voilà. Alors.
C'est-à-dire qu'on va voir les 49?
Non, je n'ai pas dit qu'on va passer par les 49. D'accord? Si vous voulez, après je pourrais.
Non, mais je sais qu'on a un calendrier où c'est comme ça, où on voit.
Oui. Pourquoi pas?
Les 49 qui sont résumés.
Mon but, c'est pas d'expliquer les 49. Mon but, c'est d'expliquer la base. Mm-hmm. D'expliquer la base, c'est-à-dire d'expliquer comment ça marche. D'accord, d'expliquer la base, d'expliquer comment ça marche, d'expliquer qu'est-ce que c'est une sphira, pourquoi on s'intéresse aux sphirotes, qu'est-ce que c'est les 7 sphirotes. D'accord.
Tu as ramené que Moshe va raconter ça au Béni Israël. Est-ce que c'est vraiment sous cet aspect-là, c'est-à-dire vraiment
des
sphirotes
C'est pas forcément qu'il leur parlait de sphirotes, mais il leur parlait de comportement. Ça c'est clair.
Ça c'est clair, oui, forcément.
Ça c'est clair, parce qu'il n'y avait pas de mitzvot. Il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait rien. Alors il faisait quoi pendant ces 49 jours? Il leur a dit, vous allez sortir, vous allez dans le désert, vous allez vous travailler, et au bout de 49 jours, vous recevrez la Torah. Vous travaillez sur quoi? Il faut un plan quand tu veux travailler sur quelque chose. Tu ne peux pas venir, on va se travailler sur quoi? Un plan. Et là, on va voir qu'il y a un plan qui est très clair, qui est très défini. Ok. Alors, on va commencer. Les Havin, page 240, 241, Kouf Rafalef. Les Havin, Machal Umlitsa, Divrei Chachamim. On va essayer de comprendre maintenant Machal Umlitsa. Donc, l'exemple que les Chachamim et l'image que les Chachamim ont voulu donner. Divrei Chachamim Vechidotam, ce que les Chachamim ont voulu donner. Et en fait, il dit ici Vechidotam, c'est presque une énigme. Parce que chaque fois qu'on parle des Sphirotes, on a l'impression qu'on parle d'une énigme. On nous parle de bonté, de rigueur, de trucs. C'est des trucs, c'est des trucs qu'on ne sait pas trop. On a du mal à comprendre comment on peut pas dire des choses comme ça pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est une sorte d'énigme. C'est-à-dire quoi une énigme ? C'est-à-dire c'est un concept qu'on essaie de t'expliquer, et on veut qu'au travers de ce concept, tu comprennes certaines choses. Beinyan Asfirot, à propos des Sphirot. Donc on n'a rien inventé, tout ça ça vient du Zohar, et le Zohar n'a rien inventé non plus, il se base sur des prophéties. C'est-à-dire toutes les notions qu'on parle de Sphirot, ça remonte même jusqu'à David Ameller. David Ameller en parlait. Il parlait de ces notions de Sphirot. Alors après, les noms que chacun a donnés, c'est pas forcément que tout le monde a donné les mêmes noms, mais il y a toujours eu sept concepts, sept, le chiffre 7. Donc on va essayer d'expliquer. Il dit comme ça. Il dit, pour essayer de comprendre, donc, Beinyan HaSfirot. Le but de cette lettre, c'est d'essayer de comprendre ce que le Chachamim voulait dire quand il parlait des Sphirot. C'est quoi, de quoi il parle? C'est quoi le but? Avant même de rentrer dans le détail, d'expliquer quel Sphira est quoi. Ce qu'on fera plus tard. Il faut d'abord expliquer pourquoi il y a besoin d'en parler. C'est vrai? On sait qu'il y a un grand sage qui avait dit, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher les Sphirot. Il dit, moi je prie comme un bébé. Un bébé. Est-ce qu'un bébé il comprend pourquoi son père, c'est son père, et c'est son père, et c'est son père, et c'est sa mère, et c'est sa mère.
En même temps, c'est pas...
Alors, comme ça, il disait... calculateur. Très bien. En même temps, c'est vrai, c'est moins calculateur. C'est vrai.
C'est plus simple.
D'accord. C'est peut-être.
Peut-être.
D'accord. Peut-être. Sauf que, le problème... C'est que Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah de chercher à le comprendre au maximum. Donc c'est compliqué de... Tu comprends ? Ça veut dire, être un enfant, c'est bien. Mais faire l'enfant, c'est pas bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Être un enfant, c'est bien. C'est des gens qui sont comme ça. C'est des gens qui sont comme ça, qui ne réfléchissent pas trop. C'est des gens peut-être qui n'ont pas trop les aptitudes pour réfléchir. Une personne comme ça, il est un enfant. Donc il n'y a pas de problème. Être un enfant, c'est bien. Mais jouer l'enfant, ça non. Parce que jouer l'enfant, c'est-à-dire que j'ai pas envie de chercher, je ne veux pas réfléchir. Ça, j'ai pas le droit. Je dois chercher à réfléchir. Réfléchir à quoi? Modatzot. Il faut comprendre une première chose. Mipik doshe elyon nishmata meden. Il dit, l'admon razaken, c'est connu. Et ça, c'est connu. Mipik doshe elyon, ça veut dire de grandes sadikim. Quand il dit que doshe elyon, a priori, il fait référence tout de suite au Baal Shem Tov. Il fait référence au Maharal de Prague. Il fait référence à ses propres maîtres. Les karev ktsat el asechel. Il dit que pour répondre à cette question, donc apparemment, on comprend de la lettre que c'est une question que l'Admon Razaken s'est posée, puisque vous savez que l'Admon Razaken n'est pas né dans la Chassidout. Il est né jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'était pas du tout dans la Chassidout. Il était dans un monde qui était même presque opposé à ça. Seulement 50, ils sont recherchés, et ils comprenaient que l'étude de la Gemara à elle seule, ça ne lui suffisait pas. Ils comprenaient qu'il y avait quelque chose derrière. Et ses maîtres n'étaient pas capables de lui dire ce qu'il y avait derrière. Donc il a compris qu'il fallait chercher autre chose. Et il a tourné, jusqu'à qu'il est tombé sur le Magui de Meserich, qui était donc l'élève principal du Baal Shem Tov. Et vous allez voir que de la lettre, on comprend qu'en vérité, c'est quelque chose qui a dérangé l'Admon Razaken depuis le début, ça. Quelque chose qui a dérangé depuis le début, ça, à comprendre pourquoi même on doit chercher à comprendre ça. Voyez ce qu'il a expliqué. Il dit, les karev ksat et la secha. Donc on va essayer d'expliquer et de comprendre un peu mieux pourquoi d'abord on doit chercher à comprendre les Sphirot. Maïdirtiv, ce qui est écrit, c'est écrit dans Iov, Umibsari et Cheze Eloka. Job, il dit la chose suivante, il dit, au travers de ma chair, je vois Dieu. Comment vous comprenez ce verset? C'est-à-dire quoi, au travers de ma chair, je vois Dieu? Je vois Dieu au travers de ma chair? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en disant, au travers de ma chair, je vois Dieu?
Job, il a souffert, la souffrance.
Il a ressenti.
C'est ma réponse que tu dis, mais il n'a pas dit, au travers de ma chair, je ressens Dieu. Il dit, au travers de ma chair, je vois Dieu. Echezé. Echezé, c'est pas seulement voir. C'est voir de manière très profonde. Chizayon, c'est une vision. C'est pas seulement une vue, c'est une vision, c'est-à-dire que je vois très loin. Vous savez ce que la différence entre la vue et la vision? La vue, c'est je vois. Est-ce que forcément je comprends ce que je vois? Non, mais quand c'est une vision, c'est...
Tu trouves?
Ah non.
Pas du tout, un visionnaire, c'est quelqu'un qui...
Non, mais c'est peut-être, oui, non, c'est peut-être plus vision, lointain.
Bah, aussi, il y a l'expression d'une vision, c'est quelque chose qui est pas... J'ai eu une vision, c'est quelque chose qui est pas... c'est pas défini, c'est aussi un peu dans l'esprit.
Une vision, oui. Mais c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui a, c'est quelque chose qui va très loin.
Voilà, une vision, c'est aussi une vue de l'esprit.
D'accord. Alors, c'est-à-dire comme Ipsari Chesedoka, au travers de ma chair, je vois Dieu.
Ça peut être très complexe, on comprend qu'il y a,
c'est pas ça.
Alors comment ça marche ?
Je sais pas.
Ah, il va expliquer, regardez, c'est très simple. Il dit, ça veut dire quoi quand on dit qu'au travers de ma chair, je vois Dieu ? Ça veut dire que quand je vais comprendre le développement de ma neshama, mon développement personnel, ça va me permettre de comprendre kaviachol, le développement de Dieu. Kaviachol. On va expliquer tout de suite. Je relis dans les mots. Ou ipsari chese eloka. Au travers de ma chair, je vais comprendre Dieu. Pourquoi Yahvé dit ça ? Vous savez, dans la Torah, hein, souvent on voit, on nous parle de la main de Dieu, la force de Dieu. La main, d'accord ? Et très souvent, les mépharchés posent la question, ils disent, mais comment ? Est-ce que Dieu, il a une main ? Voilà, on a vu dans le... On a vu dans les... Surtout, on retrouve ça surtout dans les... Quand on sort d'Égypte.
D'accord ?
Beyak Razaka, Vizroan et Touya, avec une main forte, et un bras étendu, et quelle main, quel bras ? Où main ? Où la main ? Où le bras ? D'accord ? On explique comme ça. On dit qu'en vérité, pourquoi on nous dit ça ? Parce que la main, c'est quelque chose que moi, je connais. Dans mon corps. Et très souvent, quand Akadosh Baruch Hu, il veut me faire passer une notion, il dit, je peux pas te la faire passer comme ça, la notion, tu ne la comprendras pas. Donc, je vais t'expliquer comment elle est chez toi. Je te donne un exemple. Comment c'est chez toi ? Une analogie. Par exemple, la main, ça représente quoi ? La main forte, ça représente quoi ? La main forte, on sait ce que c'est la main forte. Quand une personne dit, il a la main forte, c'est quelqu'un que quand il veut, il fait. Quand on dit le bras long, c'est une image qui veut dire quoi dans notre tête ? Le bras long, ça veut dire, c'est quelqu'un que... Encore une fois, ce qu'il veut faire, il le fait. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit la main forte et le bras long, c'est une histoire de nous donner une image, mipsari, au travers de ma chair, voir Dieu. Ça veut dire, si Dieu, il vient, il va te dire, tu sais, je fais ce que je veux chez Pharaon. Il dit, bon, ok, il fait ce qu'il veut, d'accord. Mais si Dieu va te dire, tu sais, j'ai la main longue, tout de suite. Ah, la main longue, je comprends. Pourquoi je comprends ? Parce que c'est quelque chose de ma vie, c'est quelque chose que je connais. D'accord ? C'est ce qu'il dit. Alors, on va expliquer que c'est la même chose. En vérité, les sphirotes, kaviachol, si on peut dire, en vérité, il n'y a pas les sphirotes. C'est-à-dire qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus haut que tout ça. Le fait même de rentrer dans les détails, de dire, il y a Chesed, il y a Gvoura, il y a Tiferet, Kadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus haut que tout ça, d'être limité et d'être fractionné en des sphirotes et des sous-sphirotes. Il est beaucoup plus haut que ça, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on nous fait ça? Parce qu'en vérité, quand on va comprendre ça chez Kadosh Baruch Hu, ça va nous permettre de comprendre ça chez nous. On va comprendre que nous, en vérité, on a exactement la même structure. Donc, Mipsari, Echese Eloka. Au travers de ma chair, Echese Eloka, je vois Akadosh Baruch Hu. Alors il explique. Dans les mots. Chez Akavana, la Kavana de ce pasouk, qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk ? Lehavin, Ktsat et le Kuto Yitbarech. On va essayer de comprendre un petit peu de la divinité de Dieu. Donc de la divinité. Min nefesh amlu beshet vebasar vadam. En comprenant ce qui se passe dans notre âme. Alors bien sûr, il y a une note du rabbi sur ça. Le rabbi, il dit, l'essence de l'âme, on pourra jamais la comprendre. De la même manière que l'essence du spirituel, on pourra jamais le comprendre. Puisque le spirituel, par définition, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc on peut pas le comprendre. Très difficile. D'accord, c'est vrai. Mais, même si on peut pas le comprendre, mais on peut ressentir l'impact que va avoir le spirituel sur nous. Je vous donne un exemple. On dit que lorsque Mashiach, il va venir, Bezrat Hashem, très bientôt, Mashiach, il va juger avec l'odeur. Vous avez entendu parler de ça?
Oui.
Bon, comment vous comprenez ?
Comme on comprend, on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que les
mitzvahs... Imagine-toi, tu as deux personnes. Ah, d'abord, juger quoi ?
Le comportement.
Alors, on est jugé, ça veut dire quoi juger ?
Déjà, est-ce que qui est juif et qui n'est pas juif ?
Non, on va le juger. C'est quoi un jugement ? C'est quoi juger déjà ?
Évaluer la personne, savoir ce qu'elle vaut vraiment.
Ah, bah bon. Juger déjà, ce que ça veut dire quand on est jugé. Juger, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont un problème, qui ont un litige. Ils vont venir pour se faire juger. Donc forcément, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Ou peut-être les deux qui ont raison, mais enfin, pas surtout, quoi. Mais d'accord ? C'est un jugement. Comment un juge, il fait aujourd'hui pour savoir qui a raison ? On va devoir chercher des témoins, on va devoir questionner, on va devoir poser des preuves, etc. C'est comme ça qu'on va savoir qui a raison. Très bien. Ma chère, il va juger avec l'odeur. Il va venir, c'est toi qui a raison.
Le feeling.
D'accord ?
Ah non, attendez. Non, c'est une preuve tangible, là.
Ah, attention, problème, là. Alors, mes farchis me posent la question, ils disent, mais attendez, mais la Torah, on n'aura pas de nouvelle Torah. Il n'y a pas de nouvelle Torah. Comment on peut juger par l'odeur ? Ça n'existe pas, ça, dans la Torah, de juger par l'odeur. Donc, il y a beaucoup de mes farchis qui s'arrêtent sur ça. Il y a certains mefarshim qui disent qu'en vérité, il y a certaines choses dans la Torah dans lesquelles la Torah nous dit qu'on n'a pas besoin d'avoir de preuves. Par exemple, on dit un roi. Lorsqu'un roi il décide quelque chose, est-ce qu'il a besoin d'expliquer pourquoi il a décidé ce qu'il a décidé ? Non. Il a décidé parce qu'il a senti que c'était la chose à faire. Il a senti encore une fois. Bon. Donc il va faire ce qu'il doit faire. Bon. Ça nous amène maintenant à expliquer quelle est la différence entre la entre manger et sentir. La différence est très simple. C'est que quand je mange quelque chose, je mange quelque chose de tangible. C'est-à-dire, par exemple, je mangeais une banane. Je mangeais la banane. Avant que j'ai mangé, il y avait une banane. Une fois que je l'ai mangée, il n'y a plus de banane. Donc, c'est-à-dire, je vois devant moi. J'avais une banane, j'ai plus la banane. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je peux toucher et c'est quelque chose que je peux quantifier. Est-ce qu'on peut quantifier de l'odeur ? Est-ce que je peux dire, j'ai senti, et comme j'ai senti ce parfum, il y a moins de parfum ?
Oui, il y a un pH, ou j'en sais rien. Hein ? Il y a un truc,
non ? Il n'y a pas ? Non,
il n'y a pas. Moi ? C'est pas quantifiable.
Tu prends un parfum, tu rentres dans une parfumerie. Est-ce que parce que tu as senti le parfum, il y a moins de parfum ? Non.
Non.
D'accord ? Il n'y a pas moins de parfum.
Ouais, c'est, tu sens quoi, l'évaporation.
Alors attends, une seconde. Maintenant, attends, je continue. Je prends, maintenant, j'ai mangé. Quand j'ai mangé, j'ai pris une banane. J'ai mangé la banane. Je comprends que ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que j'avais faim. Mon corps avait besoin d'essence, si on peut dire comme ça. Donc il a besoin de combustible. D'accord ? Je lui ai donné la banane. J'ai vu la banane. Elle était là, maintenant elle est dans mon corps. Donc j'ai vu. Et donc maintenant la banane est dans mon corps. Donc
elle
je comprends.
Elle est consommée.
Donc je comprends ce qui s'est passé. Maintenant je sens une bonne odeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai kiffé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a fait kiffer là ? Pourquoi j'ai kiffé ? Hein, vous avez déjà posé la question ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai kiffé ? Hein ? Qui a kiffé ? Pourquoi t'as kiffé ?
Tu veux parler de... Quand tu parles de comparer le fait de manger, enfin le goût, manger, et le fait de sentir, c'est quoi ?
Ce que je veux dire, c'est que dans les deux, par exemple, je veux manger. D'accord ? J'avais faim. J'ai mangé, on m'a donné un bon sandwich. C'est bonne viande. D'accord ? J'ai kiffé, c'était une bonne... Pourquoi j'ai kiffé ? Là, je comprends pourquoi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que j'avais faim, d'accord ? J'avais besoin j'ai mangé, ça a touché mon palais, d'accord ? Il y a eu un goût, c'est rentré dans moi, ça m'a rempli, ça m'a calé. On comprend ce qui s'est passé, on peut quantifier, on peut expliquer ce qui s'est passé. Mais dans une odeur, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est expliqué qu'en vérité, l'odeur, écoutez bien, le profit de l'odeur est lié directement à la neshama.
C'est la mémoire olfactive.
C'est lié à la neshama, c'est pas lié au corps. Le corps ne profite pas. La preuve, c'est quoi ? C'est que si vous allez prendre du parfum et vous allez le mettre sur vos doigts de pied, est-ce que vous allez kiffer ? Non. Pourtant, le corps, il y a du parfum sur le corps.
On doit le sentir.
Comment ça se fait ? Parce qu'en vérité, le parfum, l'odeur, c'est pas le corps qui profite. C'est la neshama qui profite. C'est pour ça que quand le Shabbat y sort, qu'est-ce qu'on fait ? Bessamim. Pourquoi le Bessamim ? Parce qu'on dit qu'il y a la neshama qui a de la peine, parce que la neshama, elle dit, quand j'étais pendant Shabbat, j'avais la neshama supplémentaire. Et maintenant que cette neshama supplémentaire m'a quitté, qui c'est qui a de la peine ? C'est pas le corps, c'est la neshama. Donc comment on va consoler la neshama ? On va lui donner une bonne odeur. Ça veut dire que la bonne odeur est liée directement à quoi ? Elle est liée directement à la neshama. Ah merde. Alors maintenant, quand on lui dit que ma chère, il va juger à l'odeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, comment on juge ? On juge avec le corps. On juge seulement avec ce qu'on est capable de quantifier. C'est-à-dire que maintenant, je quantifie. De la même manière que moi, j'avais la banane, j'avais le sandwich, je peux le quantifier. Mais pour moi, quelque chose comme l'odeur, je ne peux pas le quantifier. Donc, puisque je ne peux pas le quantifier, je dis, c'est pas un élément, c'est un élément peut-être qui existe, mais c'est pas un élément avec lequel je peux travailler. C'est pas un élément que je peux quantifier, donc je ne peux pas travailler avec ça. Bon, je peux pas juger avec ça.
Donc, la neshama, elle va changer.
Quand ma chère va venir, l'odeur sera un élément tellement concret, le spirituel sera un élément tellement concret, qu'on pourra juger avec ça. Pourquoi je vous parle de ça ?
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un impact.
Je vais expliquer. Rabbi dit comme ça. Rabbi, il explique. Il dit qu'en fait, on doit savoir que aujourd'hui, si on nous raconte ça, bon, pourquoi on nous raconte ça de Mashiach ? Est-ce qu'on aura besoin de... Est-ce que tu penses que quand Mashiach va venir, on va le regarder, on va dire, est-ce qu'il juge à l'odeur ? S'il n'y a pas jugé à l'odeur, c'est pas cachère, c'est pas un bon Mashiach. Bon, ce sera Mashiach. Mashiach, je serais sûr que ce sera un bon Mashiach. Je vous illustrerai ma question. Vous savez, on dit une fois, à la table du rabbi précédent, il y avait une fois quelqu'un qui était là, à la matza, à la table du seder, donc ils ont coupé la matza du... Il a coupé sa, chacun a son plateau chez les Ashkenazim. Donc il a coupé la matza du milieu pour Yachat. Et il était là, vous savez, on doit prendre le grand morceau et le cacher. Et le couper, le cacher. il était là en train de calculer lequel est le plus grand. Il y a des gens comme ça qui sont... D'accord. Alors, le rabbi précédent, il lui a dit, un grand qu'on a besoin de calculer, c'est pas un grand. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu crois que quand ma chère qui va venir, on va être là, on va dire, ah, est-ce qu'il juge à l'odeur? Ah non, c'est pas lui. Tu n'auras pas besoin d'entendre des choses comme ça. Tu verras tout de suite que c'est lui. Ah, pourquoi on nous raconte ça dans ma chère? Ça s'est écrit dans l'Aftara qu'on a lu de Acharon Shel Pessah. L'Aftara qu'on a lu du jour de... dernier jour de Pessah, le jour où on a fait tout l'autre ma chère. Ouais. Rabbi l'explique comme ça. Rabbi dit, si on nous raconte ça, vous allez voir le rapport avec ce que je vais expliquer ici. Si on nous raconte ça, c'est que certainement, que Akadosh Baruch Hu, il veut nous préparer à ce qui va se passer dans la génération pré-Mashiach. Donc c'est nous. Et il dit comme ça. Il dit, dans la génération pré-Mashiach, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on ne pourra pas dire que c'est Assur Alpi Halakha. Je vous donne un des exemples. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne peut pas dire que c'est Assur Alpi Halakha. C'est-à-dire que tu vas voir le Shulchan Aruch, on ne va pas dire que c'est interdit. Mais on sent que ça ne se fait pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui nous arrivent. Quand, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose. Il y a des choses que je sais que c'est interdit. C'est écrit, c'est interdit. Ok. Il y a des choses, c'est pas interdit. Mais je sens que ça me dérange. Je vous donne un exemple. Voilà. Récemment, j'ai eu ce sentiment. Par exemple, j'ai vu, ils ont vendu du pain cachère de Pessah. Vous avez vu ou pas?
Ça fait polémique.
Ah, ça fait la polémique. C'est un scoop, ça. D'accord. Est-ce que Alpi Halakha, c'est assour?
Non.
Alpi Halakha, c'est pas assour.
C'est chacol.
Mais ça sent pas bon.
Ça sent pas bon.
Alors, est-ce que c'est un facteur à prendre en compte, ça? Ça sent pas bon. Écoute, si c'est permis. Et bien, le rabbi dit comme ça. Le rabbi dit, il explique que plus on approchera de Mashiach, et plus ce qui sera interdit. C'est pas sur ça qu'on va discuter. On discutera le plus sur les choses, justement, qui sont grises. Ça veut dire, c'est ni permis, ni interdit. Et c'est à toi de décider, de comprendre, de te dire, est-ce que je dois le faire ou je dois pas le faire. Et c'est pour ça qu'on te dit que ça, ce sera la qualité du Mashiach. Pas seulement pour te dire que Mashiach le fera, pour te dire qu'en vérité, nous, dans la génération avant Mashiach, plus on avancera de Mashiach, et plus les choses sur lesquelles on devra débattre, on devra se travailler, ce seront des choses sur lesquelles tu peux pas vraiment dire que c'est interdit, tu peux pas vraiment dire que c'est permis, c'est pas clair.
Et plus on avance, plus on trouve de choses qui nous permettent de contourner les...
Exactement. D'accord. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que le rabbi dit. C'est-à-dire qu'avant, dans les générations d'avant, c'était très clair. C'était, on savait, ça, tac, 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 permis, interdit. Basta. Est-ce que vous remarquez comment les choses aujourd'hui sont devenues compliquées? Les choses aujourd'hui sont devenues compliquées. Pourquoi c'est devenu compliqué? Parce que justement, aujourd'hui, on doit utiliser notre rouche arrière. On doit utiliser l'odeur. Et comme j'ai expliqué, l'odeur, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Très bien. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on va parler justement ici maintenant. Je vais expliquer, il va dire que Mipsari et Chézé Loka. Il y a beaucoup de choses que on ne peut pas, il y a beaucoup de choses, donc comme on va expliquer ici, que on peut pas les ressentir. C'est pas des choses qui, nalachal, tu peux dire c'est moutard, c'est assour. Il y a beaucoup de choses que c'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a une image, on appelle ça le cinquième Shulchan Aruch. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, il y a quatre parties. Quatre parties en Shulchan Aruch. Nous, on connaît plus le Kitur Shulchan Aruch, mais dans le grand Shulchan Aruch, il y a quatre parties. Il y a des parties qui sont dédiées à la vie de tous les jours, ça c'est la partie que tout le monde étudie. Il y a des parties qui sont dédiées aux lois du commerce, il y a des parties qui sont dédiées aux lois du divorce, d'accord? Il y a des parties qui sont dédiées aux halakhot qui sont plus recherchées, comme les halakhot du ribit et des choses comme ça, d'accord? Enfin, il y a quatre parties. Et on dit qu'un rabbin, mis à part les quatre parties, il doit toujours apprendre aussi le cinquième Shulchan Aruch. C'est quoi le cinquième Shulchan Aruch? C'est le Shulchan Aruch du feeling.
C'est le sixième sens.
D'accord? Sixième sens, si on peut appeler ça le sixième sens. Très important, ce qu'il va expliquer ici. Alors je relis. Shakavana i lehavin ktsat elokuto idbarer min nefesh amlu beshet bevasar vadam. Ça veut dire, comprendre la neshama, on ne pourra jamais comprendre la neshama. Mais comprendre l'impact de la neshama, ça on peut le comprendre. C'est comme l'odeur. C'est-à-dire comprendre pourquoi j'ai kiffé quand j'ai senti l'odeur, je ne pourrais pas comprendre. Mais au moins je sais que j'ai kiffé. Donc ça veut dire, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. C'est la même chose. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi c'est important pour nous, rappelez-vous, de parler des sphirotes. Ok, il développe. Ve'alpi ma'amar rabotenu zichonan l'vracha al pasuk. La Gemara Brachot, page 10, elle explique ce que les Chachamim disent sur le pasouk dans Tehilim, Bachi nafshi et Hashem. Le pasouk qui dit que mon âme bénisse Dieu. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais ça veut dire quoi que mon âme va bénir Dieu? Pourquoi tu dis mon âme? Comme si bon, mon corps il bénit pas Dieu. Pourquoi tu dis mon âme va bénir Dieu? La Gemara dit comme ça. Elle dit, ma kadosh baruch choule, af aneshama choule. Que de la même manière que Kadosh Baruch Hu emplit le monde, de la même manière, la Neshama emplit le corps. J'explique ce qu'il veut dire ici. Il dit comme ça. Il dit que, là-bas, la Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. Hein. Elle dit, Bachinav Shiat Hashem. Que pourquoi on dit Bachinav Shiat Hashem et que mon âme va bénir un Kadosh Baruch Hu? C'est pour te dire que de la même manière que Kadosh Baruch Hu emplit le monde, de la même manière, la Neshama emplit le corps. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de macrocosme et microcosme. D'accord? Donc, macrocosme, c'est le monde, et microcosme, c'est l'homme. C'est une idée qui est très présente dans la Kabbalah, et en vérité, c'est pas que dans la Kabbalah, là, on voit que c'est la vérité au tout début de la Gemara Brachot. Vous savez que la Gemara Brachot, c'est la première Gemara du Talmud. Pour vous dire, c'est-à-dire déjà au tout début du Talmud, page 10, déjà, on parle déjà de ce concept. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, de la même manière que Dieu remplit tout le monde, Dieu emplit le monde, de la même manière, la Neshama emplit le corps. C'est-à-dire qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes entre la manière comment Dieu emplit le monde, comment Dieu a construit le monde, et comment la Neshama emplit le corps. D'accord? Ma Neshama, ma Netagwa. Je sais qu'il y a beaucoup de similitudes qui sont développées. On dit par exemple que, de mémoire, on dit que dans le corps d'un homme, il y a 2/3 d'eau, c'est ça? Deux tiers. On dit que la proportion entre le liquide et le dur dans le corps de l'homme, c'est à peu près la même proportion qu'il y a dans le monde, dans le globe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, qu'on dit qu'on retrouve beaucoup de proportions dans le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire entre le monde et l'homme. D'accord? C'est pour ça que très souvent, c'est même Rachid, même dans beaucoup d'endroits, on dit que l'homme est comparé à Olam Katan, un petit monde. Et c'est pour ça que souvent on nous parle du petit Beth Amikdash qu'il y a au fond de chacun de nous. Ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, si nous on va chercher à comprendre les Sphirot, c'est pas seulement pour comprendre les Sphirot en général. Parce que quand on va parler du monde, en vérité, on ne parle pas que du monde. On parle de nous. Parce que quand on parle du monde, dans le monde, il y a nous. D'abord, dans le monde, il y a nous. Et en plus, le monde, c'est seulement une caricature, c'est seulement en grand ce qui se passe en vérité à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la Gemara qui le dit. Au tout début de la Gemara. Vous imaginez, dire ça il y a 2000 ans, c'est pas rien. Hein. De dire que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il emplit le monde, c'est de la même manière que la Neshama remplit le corps. C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Extraordinaire. Ok. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire Chas V'Shalom que, la Neshama, que si j'ai compris la Neshama, j'ai compris Dieu. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il a créé son monde d'une manière qui a une structure commune. C'est intéressant à savoir ça. C'est-à-dire qu'il y a une structure commune, et que si je comprends comment ça se passe ici, automatiquement je comprends comment ça se passe partout. Je vais essayer de donner un exemple. Imaginez-vous que je vais essayer de comprendre ce qui se passe sur la planète Mars. Jamais je pourrais aller sur la planète Mars. Alors c'est pas accessible pour moi. Et maintenant il y a quelqu'un qui va venir me voir, et me dire, écoute, tu sais, ce qu'il y a sur la planète, toi tu arriveras peut-être jamais là-bas, mais sache que ce qui se passe sur la Terre ici, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe là-bas. Alors, ça ressemble beaucoup, je dis pas que c'est exactement la même chose, je dis pas que c'est exactement les mêmes phénomènes, mais ça ressemble beaucoup. Donc quand je vais comprendre ce qui se passe ici, je vais comprendre ce qui se passe là-bas. C'est la même chose que tu dis à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, tu veux comprendre ce qui se passe chez moi, comprends ce qui se passe chez toi. Voilà pourquoi dans la Chassidoute, on essaye beaucoup à comprendre, on cherche beaucoup à comprendre les Sphirot, la Kabbalah et la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, quand on comprend ça, ça nous permet de nous comprendre nous-mêmes qui on est. Ce qu'on va essayer de développer. Ve'alpi ma'amar ha-Zohar. Va'ipar, al-pasuk va'ipar, va'pav d'ishmatraim. Man de nafach, mitoch et nafach. On sait ce que le Zohar nous dit sur le pasouk va ipar be'apav nishmat chaim. Pour ceux qui étaient là, tout le monde était là quand on a fait. T'étais là quand on a fait Gerat Hatshuva?
C'était à combien de temps?
Gerat Hatshuva, il y a.
T'as parlé de quoi?
Gerat Hatshuva, il y a un an et demi.
Non, j'étais pas là.
On a fini il y a combien de temps?
On a fini à Pessah l'année dernière. Non, j'étais pas encore là depuis quand t'es avec nous?
Ça fait. Depuis la rentrée, je crois.
Ah, depuis la rentrée.
Depuis Shalom, quoi. Ça fait à peu près un an, quoi.
Ouais. Donc, il n'était pas là pour regarder, tu vois. Regarde, tu vois, on a fini un an. On a fini à Pessah un an. Dit comme ça. Donc, Rapi, Mamarazor, Alpas, vous voyez, Pav Nishmatra, Imban, Nafar, Mitor, Nafar. Regarde, tu vois, on avait expliqué la chose suivante. On a dit que ça veut dire quoi que vous rappelez, on avait expliqué la différence entre souffler et insuffler. Oui. Qui se rappelle la différence?
Le souffle, l'insuffler, ça vient du fond ici, l'insuffler.
Oui.
Et souffle, c'est continuer et pas l'autre.
Et ça ne demande pas d'effort.
Voilà.
On avait dit, voilà, j'expliquais encore ce qu'on avait
profond,
dit. On avait dit, quand une personne y parle, peut parler pendant des heures sans s'essouffler. Alors que quand une personne va, par exemple, sonner du chauffard, où il va essayer de justement de faire du bouche à bouche pour essayer justement de faire vivre quelqu'un, au bout de quelques secondes, il va s'essouffler. Pourtant, dans les deux, c'est la même chose. Quand je parle, si je mets la main devant la bouche, qu'est-ce que je vais sentir? Du souffle. Alors pourquoi, une fois, je me souffle, un autre, je ne me souffle pas? Ce qu'on avait expliqué. On avait dit que quand je parle, ça vient du haut de mon corps. Donc ça ne m'essouffle pas parce que de toutes les façons, mes poumons, ils tournent. Mes poumons, ils tournent et de toutes les façons, ça marche. Mais quand je vais insuffler, je vais chercher le souffle au plus profond de ce qu'il y a en moi. Et comme je vais le chercher au plus profond, donc ça me vide. Je sens que ça me vide. Je sens que je n'arrive plus. Très bien. Alors le problème, c'est quoi? On avait dit que lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, c'est écrit « Ipar Bavav Nishmatraim » qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme la Neshama. Est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est essoufflé quand il nous a créé? On a dit insufflé.
Non, il a pris une partie.
Ça veut dire quoi? Exactement. Insufflé, pas dans le sens qu'il s'est essoufflé, mais dans le sens qu'il est parti chercher une partie profonde. Man de nafar mitoch nafar, nous avait dit le Zohar. Quand on dit qu'on insuffle Razak, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti chercher le plus profond. Ça veut dire en vérité, quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a donné ce qu'il y a de plus profond. Ça veut dire quoi? Comment comprendre ça? Comment comprendre ça qu'en moi se trouve ce qu'il y a de plus profond? Comment comprendre ça de manière logique? Et tu dis, c'est très simple. C'est qu'en moi, il y a la même structure qu'il y a dans le monde entier. Donc ça me permet de comprendre. D'accord? Ra? Bonsoir.
Il faut relâcher.
Je fais une pétition. Hein.
Il faut relâcher.
Ça va bien la barbe?
Hein?
Ça va bien la barbe?
Ouais.
Ça te fait un télo. C'est pas que t'étais pas un télo avant, hein, mais.
On va voir combien de temps il faut regarder.
T'es pas seul à décider.
Non, mais non, c'est pour ça. Tant qu'on me dit rien, je dis rien.
Donc qui dit comme ça. Puis, ma marazor, parce que ma nafar mitor en nafar. Donc on dit que qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Le Zohar nous dit que man et nafar mitoch et nafar, que quand on va insuffler, de qui on va insuffler? On va insuffler de ce qu'il y a de plus profond. Va fil ou nefesh d'asia iba amiziv ou d'asia va mochin shelahem shemprinat chayim neshama. Je vais sauter un peu cette parenthèse. Va neshama des anvim nuk vash en achorim dekin des anvim vatzil ou shehem hem elokut mamash shvetocham meir oren tzav ochom ulvash vegalus vacham adatzilu deyu vegar moichad beatzilut. Ok. Voilà, c'est pas rentable parce que là il va donner un exemple concret des sphirotes, mais ça je reviendrai dessus plus tard. En tout cas, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous une neshama, ça veut dire qu'il a insufflé en nous une neshama. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous le modèle avec lequel il a créé le monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, imaginez-vous, d'accord? On va essayer de donner, je vais donner un exemple. Imaginez-vous que j'ai envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un. J'ai envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, mais quelque chose d'énorme que j'ai fait. Et je peux pas lui expliquer parce que c'est trop grand, je peux pas lui faire un tour, jamais il comprendra. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une maquette. Je vais donner la maquette. La maquette est dans ta main. Est-ce qu'on peut dire que la maquette, c'est le bâtiment? Non, la maquette, c'est pas le bâtiment. Mais la maquette, ça me permet de comprendre le bâtiment. C'est en miniature, c'est ce qui se passe là-bas. Eh bien, on doit savoir qu'en vérité, ce qui se passe dans notre neshama, c'est une miniature du monde. Exactement comme une maquette. Alors, je ne peux pas dire que la neshama, c'est le monde, et que quand tu as compris. Mais la maquette, la neshama, c'est une maquette. C'est-à-dire que quand tu as compris, quand je me comprends à moi, automatiquement, je comprends le monde. Et ce qu'on expliquera plus tard, on expliquera que c'est la technique qu'ils utilisent les tzadikim. Comment les tzadikim font pour connaître les autres? Vous savez comment ils font? En se connaissant eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand tu as une personne qui va voir un rave, ça, c'est une autre lettre que je voulais faire, mais bon, c'est la lettre 22, ça. 22 ou 25, on ira plus tard. C'est une lettre dans laquelle on expliquera, l'Admor HaZaken expliquera, il dira comment ça se fait que les gens viennent voir les tzadikim pour leurs besoins matériels.
D'accord,
tzadik et spirituel, quel rapport? Quel rapport avec le business? Quel rapport? On expliquera ça. En fait, la technique est la suivante. Quand on vient voir un tzadik, on va lui demander un conseil. Comment il fait le tzaddik pour donner un problème, pour donner la solution? Comment il fait? Très simple. Le tzaddik, quand on va lui raconter ce problème, il va essayer de trouver comment lui, il a aussi ce problème. Alors, peut-être pas aussi fort, mais il va voir comment il a ce problème. Ça veut dire le même concept. Par exemple, si quelqu'un va venir voir un tzaddik, il va dire, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à faire attention à ce que je vois. Donc le tzaddik, à son niveau, il doit essayer de se poser la question. Quand vous allez voir un tzaddik et que vous voyez un instant de réflexion comme ça, bien sûr que le tzaddik il va voir dans les mondes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir comment il a ça lui aussi en lui. Et une fois qu'il l'a trouvé en lui, il dit, bon, alors maintenant, si c'est pour moi, comment j'aurais fait pour le réparer? J'aurais fait ça et ça? Très bien, voilà, j'ai ta solution. Et c'est pour ça qu'on dit, on raconte à ce propos, on dit qu'il y avait une fois une histoire avec un chamash d'un tzaddik, le Rabbi Rachab, qui il était un peu curieux comme ça, comme beaucoup de chamashim, d'accord? Il était curieux. Et une fois, il y avait des chassidim, mais vous savez, ils ont toujours envie de raconter des choses qui se passent à l'intérieur, pour être intéressant, pour faire l'intéressant. Alors il a raconté aux chassidim, il leur a dit, ouais, vous savez, le Rabbi, toutes les demi-heures, il change de chemise. Quand il est en Yichidout, quand il reçoit les gens en Yichidout, en entrevue privée, toutes les demi-heures, il change de chemise. Alors il y a un chassid qui a entendu ça, qui était choqué, qui est parti à côté du Rabbi, il a dit, vous savez, il parle dehors, ça me dérange pas, mais bon. Alors le Rabbi, il a appelé le chamash, il lui a dit la chose suivante. Il a dit, bon, il a dit, t'es viré, je continue à te payer, mais t'es viré. Ça, il lui a dit, je te continue à te payer jusqu'à la fin de tes jours, mais t'es viré, je prends un autre à ta place. Et il dit, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je change de chemise toutes les demi-heures. Vous comprenez pourquoi il a viré, parce que bon, on ne raconte pas ce qu'il faisait à l'intérieur. Il lui dit, chaque fois que quelqu'un vient me voir pour en yéchidout dans notre vie privée, je dois me mettre dans sa tête. Je dois essayer de comprendre, je dois essayer de trouver en moi le problème qu'il est en train de me proposer. Et des fois, c'est très dur. Des fois, les gens, ils ont des problèmes comme ça, tu dis, attends, j'ai pas ça, moi. Et donc, des fois, c'est très dur. C'est-à-dire, écouter quelqu'un, c'est facile d'écouter. C'est déjà bien d'écouter, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont besoin de parler. Mais un tzaddik, il vient pas juste pour écouter les gens. C'est pour parler, il peut venir à n'importe qui. Il peut raconter à n'importe qui, quand on voit un tzaddik, le tzaddik va leur donner une solution. Et est-ce que tu t'imagines l'effort qu'il faut pour trouver les problèmes de chacun chez moi? Est-ce que tu imagines l'effort que c'est?
En plus, des fois, tu viens pas pour ton problème, d'accord, tu viens pour le problème d'un autre.
Encore une fois, pour donner la solution à un problème, c'est ce que le Rabbi Rachab a expliqué. Il a dit, pour donner la solution à un problème, il faut se mettre à la place de l'autre. Et pour se mettre à la place de l'autre, il faut essayer de trouver ce concept en soi. Alors, j'ai pas dit que j'ai exactement le même problème, mais je dois trouver le même concept. Et tant qu'il l'a pas trouvé, il donne pas de réponse. Et le Rabbi Rachab, il a dit, maintenant, tu comprendras pourquoi une fois, tu te rappelles. Il dit, tu te rappelles une fois. J'avais, en plein Yichidout, j'avais demandé à ce qu'on arrête la Yichidout, j'avais arrêté pour 3 jours. Et après, je t'avais redemandé de me rappeler la dernière personne qui est en Yichidout. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, ça valait le coup de le virer quand même. Hein. Alors, il a dit parce que quelqu'un qui est venu me voir m'a posé une question. Et c'était un cas tellement grave que je n'arrivais pas à trouver comment je peux trouver ça chez moi. C'était quelque chose de très grave. D'accord ? Non. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté la Yichidout. J'ai essayé de réfléchir. Ça m'a pris 3 jours pour trouver ça chez moi. Et quand j'ai trouvé ça chez moi, je me suis dit, on peut reprendre la Yichidout. D'accord ? On peut reprendre notre entreprise privée. C'est pour ça que je changeais les chemises à chaque fois, parce que tellement ça lui demandait des efforts qu'il transpirait. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on voit d'ici qu'en vérité, dans la Neshama, en vérité, pour comprendre l'autre, il faut se comprendre soi-même. Pour comprendre le monde, je vais comprendre moi-même. Comment on a dit tout à l'heure, il a dit Eyov, mi besari, je traduis, mi besari, au travers de ma chair, echezé, je vais voir Eloka, Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, dans mon corps se trouve une miniature, une maquette de la manière comment Dieu a créé le monde. Je n'ai pas dit qu'on va faire comme les tzadikim, mais au moins comprendre la structure du monde, me comprendre à moi, va me permettre de comprendre la structure du monde en général. C'est très important ce qu'on va expliquer ici. Parce que à Kadosh Baruch Hu, il a fait une structure commune. Ok. Alors, en même temps.
Oui, en même temps, ça paraît l'image qu'il donne Yop, effectivement, ça paraît con. C'est ce qui nous rattache finalement à Dieu, c'est cette matière, c'est nous. C'est...
Oui, mais ce que je trouve le ridouche de ce périncle-là, c'est qu'il va expliquer comment finalement, quand je vais chercher à comprendre à Kadosh Baruch Hu, finalement, je me comprends moi-même. Et vice-versa. Ça veut dire qu'en vérité, quand on va parler à chaque fois des Sphirot, des Akadosh Baruch Hu, et des Malachim, et des mondes, en vérité, on est en train de parler de ce qui se passe chez nous. Et ça a un impact sur ce qui va se passer chez nous. C'est très important de m'expliquer ici. Ah, monsieur David. Alors ?
Hein ? Je vous arrange pour demain matin.
Ah, d'accord. Bon, j'ai pas répondu bon. Hein.
J'ai répondu.
Ah non, pourquoi j'ai répondu ?
J'ai répondu tard, mais j'ai répondu il y a 20 minutes.
Ah, mais. J'avais pas. Non ? Ah, il est sur. J'ai éteint, il est en mode avion.
J'ai pas commandé alors ?
Non, j'ai pas commandé. Alors, je voulais commander les sushis. Non, c'est trop tard. Ouais. C'est pour quoi, chat, si tu veux ?
J'ai eu ton message tard.
Bon. Pas grave.
Tu auras du jus d'orange, tant pis. Allez hop.
Ok. Valken, ou Mimena, on va prendre un Mimena, voilà, je vais sauter la parenthèse, on va prendre enfin c'est une parenthèse, c'est moi qui ai fait la parenthèse.
J'ai pas vu qu'il était tard.
C'est la reprise. Ah, vous savez, pendant les vacances, j'ai préparé un petit peu la suite, j'ai avancé plusieurs lettres, et il y a une lettre après qu'on fera plus tard, qui parlera de l'importance de faire un cours avec 10 personnes.
Mignonne.
Ouais. Et il faudrait qu'on y arrive avant. Ça fait quelques semaines on y était. Bon, après il y a eu une petite. D'accord.
C'est pour ça que le samedi matin, des fois il y a des gens qui s'assoient là-bas. Viens s'asseoir ici.
Il faut étudier. Il faut être parmi les 10. Il faut étudier 10.
Comme le Télim, c'est pareil.
C'est important de le faire à 10. On le saura plus tard. Ok.
Bon. Tant pis pour les sushis. Hein.
Oh, c'est pas grave. Capara.
Je pensais que tu avais eu le message. Attends. Je crois que c'était 8h15. Il était 9h15. Je suis dans le décalage. Hein. J'ai 2 heures de décalage. J'ai
2 heures.
Ah oui. Toi aussi, tu étais en Crète ?
Non, tu étais
en Marrakech.
Ah. Il fait beau ?
J'avais 2 heures de moins, moi j'avais 1 heure de plus.
Toi, tu étais en Crète, ça fait
2 heures, il y a.
Quel numéro ? Alors.
Page
241. 15e lettre ?
15e lettre, ouais.
Ah, d'accord.
Mais j'ai envoyé le SMS, t'as vu ?
J'ai vu, mais tard, j'ai pas.
J'ai écrit la lettre 15. J'ai écrit dans le SMS, non ?
J'ai écrit. Pas fait attention, moi j'ai
vu, j'ai écrit. Ok. Alors, elle continue. Dit ou Mimena. Alors oui, je voulais vous montrer la ligne. Je vais sauter une parenthèse. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ou je repasse une couche ? C'est bon ? Donc. C'est bon, Yves, je repasse une couche ?
D'accord.
Alors, ou Mimena.
Ah oui, d'accord. C'est le deuxième
message. Ou Mimena. Alors donc on va prendre la 6e ligne avant la fin de la page. Voilà. J'ai sauté une parenthèse, alors au milieu d'une parenthèse, pour ceux qui ont la traduction, une parenthèse, il parle beaucoup de Kabbalah, etc., de choses. Pesrot Blineder, si on aura l'occasion, on reviendra dessus. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc où on en est ? On a expliqué, on a dit qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que les Chachamim veulent parler quand ils parlent des Sphirot. Vous savez qu'on a expliqué les Sphirot, on en parle dans le Zohar, on en parle dans la Gemara, on en parle même depuis David Ameler. Donc de quoi ils parlent quand les Chachamim quand ils parlent de Sphirot ? On a expliqué au début du cours aussi le rapport avec le Homer. Oui, parce qu'on a expliqué qu'il y a un rapport avec le Homer. Donc je reviendrai pas dessus. Et on a expliqué qu'en vérité, avant même de rentrer dans le vif du sujet pour comprendre à quoi correspond chaque sphira, il faut d'abord comprendre pourquoi on doit parler des sphirotes. Ça, c'est le but du cours d'aujourd'hui. Pourquoi on doit parler des sphirotes ? Ça, c'est l'introduction. La clé de la réponse, c'est quoi ? Pourquoi on doit parler des sphirotes et pourquoi on doit parler de tout ce qui se passe en haut ? Parce qu'en vérité, quand on comprend ce qui se passe en haut, on comprend ce qui se passe chez nous. Et vice versa. Voilà. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Parce qu'on a expliqué qu'en vérité, l'homme est considéré comme une maquette miniature de ce qui se passe dans le monde, macrocosme, microcosme, comme ce qu'on a pu expliquer. Et que quand on comprend ce qui se passe chez nous, on comprend ce qui se passe dans le monde. Quand je comprends ce qui se passe chez moi, je peux comprendre comment régler le problème chez l'autre. C'est comme ça qu'on dit. On dit que, vous savez, on dit que, c'est quoi la, Dieu préserve, dernièrement, quand il y avait ce qui s'est passé à Toulouse, il y avait un négociateur. D'accord ? Vous savez, c'est quoi la qualité numéro un qu'on demande à un négociateur ? C'est quoi ?
De rentrer dans l'esprit de l'autre.
L'empathie.
Ouais. De rentrer dans l'esprit de l'autre.
C'est l'empathie. C'est le numéro un. Qu'est-ce qu'il fait le négociateur? Il doit rentrer dans l'esprit de l'autre. Comment il rentre dans l'esprit de l'autre?
En phase.
Hmm oui. Mais comment il fait? C'est-à-dire que, mais comment il fait pour rentrer dans l'esprit de l'autre?
Il rentre dans sa logique.
Ça veut dire qu'il doit se mettre à la place de l'autre. Mmh. Il doit réfléchir comme si c'était l'autre. Mmh. C'est extrêmement difficile. Mais c'est jouable, on peut le faire. Nous, on va faire ça, mais dans le bien. On va faire ça avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit que la structure du monde, c'est la même structure que notre structure, alors on va le faire. C'est ce qu'il explique ici. Donc c'est pour ça que, voilà la raison pour laquelle on parle des sphirotes. Pas simplement pour comprendre ce qui se passe. D'abord, c'est une mitzvah de comprendre ce qui se passe en haut. Mais aussi parce que quand on va comprendre ce qui se passe en haut, on va comprendre ce qui se passe chez nous, et vice versa. Donc, Umimena, et au travers de la Neshama, Yuchal Adam, Leavin, Ktsat, Bisfirot, Elyonot. L'homme pourra comprendre un petit peu, il vient un petit peu, hein, ne croyez pas qu'on va sortir de ce con, on va devenir des kabbalistes, en herbe, d'accord, mais au moins, on pourra comprendre un petit peu, Bisfirot, Elyonot. Shekulan, Meirot, Benishpatok, le Laméan, puisque notre Neshama va éclairer, notre Neshama est en vérité un reflet de tout ça. Notre Neshama est un reflet de ces Sphirot. Et le caractère de la bonté qu'il y a dans ma Neshama est le reflet de la bonté de Dieu. La rigueur que j'ai en moi, c'est le reflet de la rigueur de Dieu. Donc en vérité, pour comprendre Akadosh Baruch Hu, je veux comprendre ce qui se passe en moi. Voilà pourquoi quand je vais me travailler sur moi, en vérité, je travaille sur le monde entier. Ce qu'il a expliqué ici. Il dit, ah, cependant, Tzarich Lehagdim, pour comprendre ça, maintenant ce qu'il a expliqué ici, il faut comprendre d'abord, Ma Shamati mi Mori Alav Shalom. Il dit, je vais d'abord expliquer ce que j'ai entendu de mon maître. C'est très rare qu'il parle de son maître, le Admor HaZaken, de manière assez explicite. En général, il amène les commentaires. Au début, il a dit que ça vient de son maître. Mais là, comme je l'ai dit, je pense que cette lettre, c'est un des premiers enseignements, comme j'ai dit tout à l'heure, auquel l'Admor HaZaken a pensé. Apparemment, ça le dérangeait beaucoup, ce concept. Le concept, pourquoi on a pensé aux Sphirot. Et donc, il dit, je vais vous dire ce que j'ai entendu de mon maître Alav HaShalom. C'est qui le maître d'Admor HaZaken? C'est qui le maître d'Admor HaZaken? C'est qui son maître? Non. Il n'a pas connu Baal Shem Tov. Enfin, il l'a vu une fois. C'est le Magid Mezalitch. Donc il dit, je vais vous dire un commentaire de mon maître. Qu'est-ce qu'il a expliqué son maître? Al Pasuk, Ve'anochi Afar Va'efer. Shamar Avramino Alav HaShalom. Al Arat Ishvato Meira Begufov Me'or Chesed Elyon. Il dit, pourquoi Avram Avinu? Il dit, je suis Afar Va'efer. Je ne suis que Afar, poussière, Va'efer, et cendre. Pourquoi il dit ça Avram Avinu? On comprend que quand quelqu'un te dit je suis que poussière et cendre, ça veut dire, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il s'annule, il veut dire qu'il est humble. Oui, mais pourquoi il dit ça? Quoi ça sert? Regardez ce que le Magid Mezalitch a expliqué au Admor HaZaken, il nous le répète. À la rate, donc il a expliqué comme ça. Il dit qu'en vérité, quand Avram Avinu il a dit je me sens rien du tout, Comment un juif peut dire je me sens rien du tout? De quel droit je dis je me sens rien du tout? C'est très grave de parler comme ça. Tu n'es pas rien du tout, tu es une créature d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez le problème qui nous dérange ici? Comment Avraham Avinu il peut venir?
C'est comparativement, c'est pas dans l'absolu.
Non, il a pas dit je fais ce que Dieu me demande, je ferai toujours ce que Dieu me demande.
Je suis rien du tout par rapport à Dieu.
Il a pas dit je suis rien du tout, il a dit je suis poussière et cendre. Poussière. C'est quoi poussière et cendre? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu joues poussière et cendre? Est-ce que c'est bien de parler comme ça? Imagine-toi quelqu'un qui débarque et dit ouais, je suis un naze. Pourquoi tu parles comme ça? Tu le reprends, tu dis attends, ne parle pas comme ça. Si quelqu'un il dit bon, j'essaie de travailler sur mon humilité, c'est une chose. Mais dire je suis poussière et cendre, pourquoi il parle comme ça?
C'est sous-estimé.
Mais oui, c'est pas bien de parler comme un peu Avraham Avinu, il n'est pas comme ça. Ça, c'est une question apparemment que l'Admor HaZaken aurait posée au Magid de Mezirich. Regardez ce que le Magid de Mezirich va lui répondre. Il lui dit comme ça. Il dit qu'en vérité, pourquoi Avraham Avinu il a dit ça? Ça ne veut pas dire que Chas v'Shalom Avraham Avinu il s'est écrasé au tel point qu'il n'avait plus de personnalité. Non, parce qu'au contraire, on sait qu'Avraham Avinu il avait une personnalité. Il a une personnalité qui était peut-être même très forte. La preuve, on a vu, il a fait ce qu'il a fait et quand il voulait quelque chose, il le faisait. Enfin, il avait une personnalité. On peut pas dire, on peut pas soupçonner Adam Arishon. On peut pas soupçonner Avraham Avinu d'être une personne qui n'était pas déterminée. Alors comment il peut dire je suis poussière et cendre? Non. Il dit qu'en vérité, Avraham Avinu il a réussi à comprendre, il a réussi à ressentir comment l'énergie qu'il avait. En vérité, ce n'était pas son énergie. En vérité, il n'était qu'un reflet, qu'une miniature d'une énergie globale d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il l'a compris, alors automatiquement, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est clair qu'il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait ce qu'il avait à faire, mais à chaque fois, il disait, mais c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un reflet. Je suis qu'une continuité. Je suis qu'une maquette du grand plan. Je suis rien, moi. Je suis un reflet. Vous savez, imaginez-vous, c'est comme vous avez un miroir. Vous le voyez. Il y a le soleil qui tape dessus. Il est extrêmement lumineux. Le miroir va dire, ah, regarde, je suis lumineux. Mais quand le miroir il réalise qu'en vérité, c'est qu'un reflet, il dit, mais je suis rien, moi. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il a dit, va nochri afar va efer. Pas que Chas Veshalem, il a dit, je suis noir, je suis sombre, il n'y a rien. Non. Il est lumineux. Après, il dit, je suis poussière et cendre. Parce qu'il a réalisé ce qu'on vient d'expliquer ici aujourd'hui. Il a réalisé que Mipsari Chesel Oka, il a réalisé au travers de sa chair qu'en vérité, il n'était qu'un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il était humble. C'est ça l'humilité d'Adam Arishon, d'Avraham Avinu. Son humilité, c'est pas de dire je m'écrase et je suis rien du tout et je suis naze et excusez-moi du temps, je me la ferme et je ne parle pas et tout m'entendra pas. Non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est comprendre que tout ce que je fais et je vais faire, je ne suis qu'un reflet d'une énergie qui est en moi. Mais c'est pas moi.
Mais c'est comme le libre arbitre. On a du mal à le comprendre.
Non, justement, c'est qui c'est Adam Arishon, Avraham Avinu. C'est qu'Avraham Avinu, c'est pas qui te dit je décide rien, je fais rien. Il te dit non, je vais décider, je vais faire, mais je suis arrivé à la conclusion que ce que je vais faire, en vérité, je suis un reflet de ce qui se passe dans le grand monde. Macrocosme, microcosme, ce qu'on a expliqué. Mipsari et Chesed Eloka. Au travers de ma chair, je vais comprendre ce qui se passe chez Akadosh Baruch. Exactement comme le concept que les
tyrans. Il devait le faire.
Quoi? On va développer. Hi midato, midat avaraba. Nusachacher. Donc, Sheba haya oev et Akadosh Baruch. Et donc, c'est la mida du grand amour par lequel Avraham Avinu aimait Akadosh Baruch Hu. Avec de la Veliona Kolka. Vous savez, quand on parle d'Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu, il avait un grand amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un grand amour? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Avec de la Veliona Kolka, Hachenase Merkava et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un amour, je pense qu'il ne peut pas exister entre deux hommes. Ça ne peut pas exister. C'est quoi l'amour? C'est que tellement tu vas aimer l'autre personne, que tu vas arriver à la conclusion que toutes tes qualités viennent de l'autre personne. Vous avez déjà vu un amour comme ça?
Pas de mal avec.
Quelqu'un qui va aimer sa femme, et tellement il va l'aimer, il va dire, mais toutes mes qualités, c'est toi. En vérité, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui, je ne suis que ton reflet.
Et à ce moment-là, il finit en disant, et tu comprends maintenant pourquoi tu es insupportable?
Je ne suis que ton reflet. Ah, ça serait un beau poème, c'est juste que ton reflet.
Toi, ah, mais quelque part, c'est après, il y a...
Il n'y a pas des poèmes comme ça, je suis que ton reflet.
Ouais, mais à un moment donné, c'est ça une union parfaite, c'est que finalement qu'il y a une fusion.
C'est extraordinaire.
C'est ça.
Oui, mais attention, c'est encore plus que ça. C'est pas seulement que je te fais grandir. C'est-à-dire, elle te fait grandir. C'est encore plus que ça. C'est que je comprends que je ne suis que le reflet de la personne qui est en face de moi.
Je lui dois tout.
Et ça, ce qu'on appelle dans le ici, qui explique dans le Tania, il dit que c'est la différence entre un amour stam et un grand amour. C'est quoi le grand amour? Le grand amour, ça veut dire que je pense que ma raison d'exister, c'est qu'au travers de l'autre personne. C'est ça. Grand amour, c'est quoi le grand amour? Je sens que sans l'autre personne, je n'existe pas. Ça veut dire quoi? Exactement comme on expliquait ici.
C'est aimer l'autre. Bien sûr. Aimer l'autre. C'est pas aimer parce que finalement, c'est aimer, c'est-à-dire que si à sa place, qu'est-ce qu'il lui attend, qu'est-ce qu'il aime, moi j'aime ce qu'il aime lui, quoi. C'est pas que
exactement.
J'aime ce qu'il m'apporte.
On dit c'est quoi le. Oui, c'est bien ça. Sûr. C'est intéressant ce que tu dis. On explique en chassidoute.
Ouais.
On dit que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas
demander. Le bénéfice que moi
voilà, j'en fais. Voilà, le bénéfice. C'est j'aime ce que celui que j'aime aime.
Voilà, c'est ça la.
En hébreu, ça donne Ohev, Mashéa Ouv, Ohev.
Voilà,
c'est ça. J'aime, traduit en hébreu, donc en français, ça donne Ohev, j'aime, Mashéa Ouv, Ohev, ce que celui que j'aime aime.
Ça,
c'est le vrai amour.
Bien sûr.
D'accord, le vrai amour, c'est ça? Bon. Alors pourquoi on parle de ça maintenant? Puisque, je vais expliquer.
Voilà, donc tu mets ça sur la checklist avant que de. Je vois pas, non, c'est après que ça vient.
Là, il a pas dit ça en train d'aimer une femme. Hein.
Non, je sais pas.
Il a pas dit ça en train d'aimer une femme.
Ah,
c'est très compliqué à arriver à un sentiment comme ça entre deux personnes. Très compliqué. Attention, c'est pas que, comme il a dit Youssef, il y a le sentiment qu'on se complète et que chacun amène à l'autre. D'accord. Allez, David, c'est Arnaud Lechaïm. C'est ce soir alors le.
Dave.
Donc, je vais juste conclure. Voilà, parce qu'il faut qu'on parte avec une idée, il ne faut pas quand même. Donc, on va essayer de développer Bezrat Hashem dans les semaines qui vont suivre. On va s'arrêter longuement sur les sphirotes. On va donner des exemples concrets Bezrat Hashem. Expliquer comment le fait de se travailler sur soi, ça va nous permettre de comprendre la structure du monde et vice-versa. Seulement, le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer en tant qu'introduction pourquoi c'était important de parler sur les sirotes. Voilà, donc, en gros, ce qu'on a expliqué, on a expliqué que Mipsari et Chezeloka, qu'il y a une structure commune, que quand on comprend ce qui se passe dans le monde, on comprend ce qui se passe chez nous. Quand on comprend ce qui se passe chez nous, on comprend ce qui se passe chez nous. Donc, on a donné plusieurs exemples. On a donné les exemples des tzadikim qui donnaient la solution aux autres en retrouvant le problème chez eux. On a donné des exemples également. On a donné des exemples également de Adam. On va donner un exemple, pardon, de Avraham Avinu. D'accord, d'Avraham Avinu. Oui. On a donné un exemple donc d'Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu, on a dit. Pourquoi on dit qu'Avraham Avinu, il se considérait comme une poussière et comme de la terre? Parce qu'il était tellement annulé, tellement écrasé, entre guillemets, et tellement il a compris qu'il n'était qu'un reflet d'Akadosh Baruch Hu, qu'une reproduction, qu'une miniature. Donc automatiquement, il n'avait aucun sentiment d'orgueil. Voilà pourquoi il a dit non, rien à faire. Mais Chas v'Shalom, ça veut pas dire qu'il s'est écrasé et qu'il a arrêté de faire. Pas du tout. D'accord? Mais il sentait constamment qu'il était un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et on a donné encore plusieurs exemples. On a amené également l'exemple de la création du monde. On a donné également l'exemple de l'odeur. D'accord, on rappelle l'exemple de l'odeur, on a donné avec Mashiach. Moi, je vais pas revenir dessus. C'est un long exemple, ça aussi. On avait expliqué que, justement, qu'au travers de l'odeur, qu'est-ce qu'on avait expliqué? Au travers de l'odeur, ça représente le spirituel. C'est la Neshama qui profite. D'accord, donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, au travers de l'odeur, on va essayer de retrouver quelque chose dans notre Neshama, et après on expliquera comment en vérité, de la même manière dans le monde, il y a des choses qu'on sent mais qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire de la même manière que nous, dans notre corps, il y a des choses qu'on peut toucher, je veux toucher ce verre, il y a des choses qu'on sent mais qu'on ne peut pas toucher, de la même manière dans le monde, dans le grand monde, il y a des choses qu'on peut toucher et il y a des choses qu'on sent. Par exemple, qu'est-ce qui fait que je vois un paysage et que le paysage est beau? Pourquoi je trouve que le paysage est beau? Tu vas amener une autre personne, elle va dire non, il n'est pas beau. D'accord. Pourquoi je le trouvais beau? Encore une fois, ça c'est comme l'odeur. Est-ce que le fait que c'est beau, c'est quelque chose qu'on peut quantifier? Est-ce que je peux quantifier? Je veux dire, voilà, il est beau, il y a une note. On peut pas quantifier parce que c'est quelque chose que moi j'ai vu comme ça. Une autre personne peut-être y verra autrement. Donc encore une fois, vous voyez que la même chose qu'on a vu entre l'odeur et la nourriture, on retrouve exactement la même chose dans le grand monde. Tout ce qu'on retrouve dans le grand monde, on retrouve chez l'homme. Donc le fait de comprendre l'homme va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le grand monde et vice-versa. Voilà ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui. Et bien, attaché, la semaine prochaine, on va commencer à donner des exemples concrets, donc des sirotes, et on fera un rapport, si Dieu veut, avec le Homer. D'accord? À chaque fois. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Chaim. Chaim, il est